France Culture. Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Salle des archives dans l'ombre de Ronald Reagan. Épisode 2, l'idéologue sentimental. Les années de présidence de Jimmy Carter de 1977 à 1981 ont été pour les États-Unis celles d'un sentiment de déclassement. D'un point de vue économique, son mandat est marqué par le choc pétrolier et la forte inflation qui s'ensuit. Sur la scène internationale, le pays se sent humilié par l'URSS qui soutient, sous leur nez, des régimes révolutionnaires en Amérique centrale. Mais surtout, à Téhéran, 52 diplomates ont été pris en otage par l'Iran dans l'ambassade américaine et l'opération militaire lancée par Carter pour leur libération est un échec. Le 15 juillet 1979, le président démocrate fait un discours à la télévision dans lequel il pointe les faiblesses des États-Unis et son discours est jugé un peu démoralisateur.
It is a crisis.
C'est une crise de confiance, dit le président américain. Une crise qui frappe au cœur et à l'âme de notre volonté nationale. Nous pouvons voir cette crise se matérialiser dans notre doute croissant quant au sens de nos propres vies et dans la perte d'un objectif commun pour notre nation. L'érosion de notre confiance en l'avenir menace de détruire le tissu national et politique de toute l'Amérique. Dans un style évidemment tout à fait opposé à celui de Carter, Reagan fait campagne pour conjurer ce défaitisme. Il n'a pas beaucoup à forcer sa nature pour se présenter comme le candidat du refus du déclin américain. Comme on l'entend dans cette archive du 6 juin 1980, il répondait aux questions de Jean-Marie Cavada et Christine O'Krent pour la chaîne FR3, venu l'interroger 5 mois avant l'élection.
Permettez-moi de vous dire que le peuple américain, aujourd'hui, veut redevenir fier de son pays. Il pense que dans quelques occasions, nous avons trahi nos alliés, ainsi qu'à Taïwan. Ils veulent croire que nous sommes des gens d'honneur, ainsi que nous l'avons été au cours de notre histoire, mais le peuple américain a tellement accompli, a tellement fait, et peut tellement faire, qu'il veut avoir cette sensation, ce sentiment, et essayer d'enlever les obstacles qui les empêchent d'entreprendre ces grands gestes. J'aimerais que l'on arrive à être de nouveau fier de notre pays.
Françoise Coste, cette expression qu'emploie Ronald Reagan, de nouveau fier de notre pays, est-ce que ça ne fait pas quand même un peu penser au slogan de Trump, Make America Great Again?
Ah mais Make America Great Again, c'est un slogan inventé par Reagan dans les années 80, pour la campagne de 1980. Donc c'est du Reagan dans le texte, qui a été ressuscité par Trump, sans jamais d'ailleurs reconnaître sa dette. Hein. Mais effectivement, l'expression est reaganienne, et elle symbolise le plus parfaitement le message que de la campagne de 80, qu'on entend très bien, hein, les mots qui reviennent là, c'est proud, proud. On peut tellement faire, l'idée qu'il y a un potentiel, que l'Amérique, cet immense potentiel, qu'elle a déjà fait beaucoup. Il parle d'honneur, il parle des alliés, donc il y a eu un rôle à tenir sur la scène internationale que l'Amérique a perdu dans les années 70. Et son message, c'est que moi, je vais remettre tout ça sur pied.
Est-ce qu'il y a d'autres parallèles qu'on peut faire entre ces deux personnes, ces deux candidats puis présidents qu'ont été et que sont Trump et Reagan?
Moi, je sais que les parallèles sont tentants, et en particulier avec ce Make America Great Again. Mais je trouve que Trump, quelque part, pour moi, c'est le négatif de Reagan. C'est les deux sont des présidents républicains et quelque part, il ne pourrait pas être plus différent. Un terme qui revient souvent dans la bouche des Américains pour parler de Reagan, c'est sunny. Il était solaire, ensoleillé littéralement. Surtout qu'en venant de la Californie, toujours le temps allait. Donc, mais pas juste parce qu'il respire la santé californienne, mais parce qu'il était obstiné dans l'optimisme. Et Trump, c'est le contraire. Alors, il accuse les démocrates d'avoir mis l'Amérique en déclin, mais il explique pas vraiment comment changer tout ça. Il parle de carnage, il déteste les gens, il n'a que des insultes à la bouche. Donc, personne n'a jamais dit que Trump était sunny. Et par rapport à l'immigration, par exemple aussi. Reagan, on l'a oublié, c'est un républicain qui est pour l'immigration. Il trouve que l'immigration, c'est une immense chance pour les États-Unis. Il est heureux que les gens y viennent. Il trouve que, justement, dans le contexte de guerre froide, ça montre que les gens votent avec leurs pieds, parce que personne ne va immigrer vers l'URSS, mais tout le monde veut venir en Amérique. Et d'ailleurs, en 86, il sera, pendant sa présidence, il va soutenir une grande loi de réforme de l'immigration qui amène à la régularisation de millions de sans-papiers. C'est la dernière fois, il n'y en a jamais eu depuis, c'est la dernière grande régularisation de masse des sans-papiers aux États-Unis, c'est sous Reagan. Donc c'est vraiment le contraire du mur que Trump veut construire à la frontière avec le Mexique.
Une chose qui rapproche très sûrement Donald Trump de Ronald Reagan, c'est leur rapport aux médias, à la mise en scène, à la fiction. Après tout, Trump a été une star de la télé-réalité et Reagan, une vedette d'Hollywood. Ce thème du Reagan acteur a d'ailleurs beaucoup intéressé les médias français qui ont observé la campagne américaine en 1980, tant le profil du candidat leur paraissait incongru. On allait jusqu'à demander aux cinéastes leur avis sur l'ancien comédien. Ce fut le cas avec Louis Malle qu'on entend dans cette archive.
Vous suivez la politique américaine assez près, puisque vous êtes là maintenant depuis 4 ans. Carter, Reagan, vous avez quand même un œil, disons, indépendant pour voir le débat. Quel est le meilleur acteur ?
Oh ben, le meilleur acteur, c'est Reagan.
Il a autant tourné que dans des séries B.
C'est
un professionnel et c'est là où il balle tout le monde. Parce qu'en fait, il est devenu candidat du Parti républicain parce qu'il est fantastique à la télévision. Moi, je crois qu'on va finir par inventer ça en France. On va retrouver les acteurs devenir politiciens, comme ça se passe en Inde, par exemple. Vous savez que les acteurs font de la politique. Et ils sont tout naturellement préparés. Mais ce qui me frappe toujours, moi, chez les politiciens, c'est que ce sont des acteurs, et généralement, ce sont des mauvais acteurs. Le plus grand acteur français, pour moi, du XXe siècle, c'était De Gaulle. C'était un acteur prodigieux, absolument extraordinaire. Des interventions de De Gaulle à la télévision, c'était stupéfiant. Enfin, pour un professionnel, je disais, c'était la merveille. Je veux dire, il était au niveau de Gabin et de Rému et des très grands acteurs français. Alors, entre Reagan et Carter, si vous voulez, moi, je suis très content de ne pas être américain parce que je suis très content de ne pas avoir à voter. Parce que je trouve pas ça un choix très intéressant, personnellement. Mais il y a aussi Anderson. Mais Anderson, c'est une terre inconnue. Et aux États-Unis, le système bipartite est tellement fort qu'il n'a pas grande chance.
Mais il peut brouiller les cartes, disons, au moins jusqu'aux élections.
Je crois que Carter va gagner.
Vous croyez Carter ?
Oui, je crois que Carter va gagner. Il va remonter, il va gagner sur le poteau. C'est le pronostic.
On prend le pronostic, alors.
Louis Malle, qui n'est pas un très bon oracle ici. Françoise Coste, votre regard sur cette archive ?
Vous avez vu, la première chose que le journaliste dit, que c'était, avec beaucoup de mépris, que c'était Reagan, il n'a tourné que dans des séries B. Ben voilà, c'est typique de la mauvaise connaissance de la réalité de la carrière de Reagan à Hollywood. Donc le journaliste est assez méprisant, comme tout journaliste américain à l'époque. Hein. Et Louis Malle admet par contre qu'il est fantastique à la télé. Et j'aime beaucoup cette comparaison avec le général de Gaulle. Parce que oui, Reagan va un peu devenir comme De Gaulle, un monstre médiatique et un monstre politique. Ça, c'est sûr que, et comme Trump aussi aujourd'hui, indépendamment des idées, bien entendu, hein, mais on peut pas nier la maîtrise totale des médias, en particulier de l'image, par De Gaulle à l'époque, Reagan, puis Trump aujourd'hui. Et c'est assez inégalé. C'est-à-dire que c'est des hommes qui vont écraser le champ médiatique et qui vont monopoliser toute l'attention. C'est très difficile de survivre dans leur ombre.
Tout semble donc réussir à Reagan dans sa troisième campagne pour l'élection présidentielle. Elle avait pourtant commencé de façon étonnante, si ce n'est flottante, avec un candidat qui semblait absent, paraissant même parfois se désintéresser de son propre sort. En lisant les comptes rendus de réunions et de brainstorming de campagne, on se rend compte en effet qu'il y est la plupart du temps totalement muet ou qu'il intervient à contre-temps. Françoise Coste, comment comprenez-vous cette attitude détachée de Reagan dans les premiers moments de sa campagne pour la présidentielle ?
Reagan, c'est pas du tout un homme de détail. C'est pas du tout un homme de fiches, de données, de data, de pourcentage. C'est pas sa formation, ça n'intéresse pas tant que ça, et il ne fera jamais l'effort d'essayer de maîtriser tout ça.
Mais ça signifie qu'il gouverne avec des clichés, non? Avec ce qu'il a en tête et sans regarder la réalité des dossiers.
En fait, il s'est fait, comme on l'a vu dans la première émission, ses idées, on va dire, dans les 5-10 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc entre 45 et 55, il s'est intéressé, il a lu la presse, il a parlé à des gens, il s'est fait son dogme. Et une fois le dogme en place, tout va dépendre du dogme. Il ne va pas jamais en dévier, enfin jusqu'à la fin, quand il va rencontrer Mikhail Gorbatchev, mais tout va être interprété au prisme de ce dogme, et il va se dire, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre, j'ai assez dans ma besace idéologique pour comprendre le monde et avoir des idées. Et quelque part, j'ai envie de lui dire, ben, c'est finalement pas faux, puisque sans faire plus d'efforts que ça, sur le plan du travail intellectuel, il a réussi à faire deux mandats en Californie et à être élu deux fois président des États-Unis et finalement être considéré comme un des principaux présidents du XXe siècle. Donc, pourquoi en faire plus quand en faire à minima, ça fonctionne si bien ?
Ces flottements entraînent des défaites de Reagan lors des primaires républicaines, des électrochocs qui semblent néanmoins réveiller le candidat, lequel devient soudain plus combatif avec un programme au slogan simple, baisser les impôts et réarmer l'Amérique. Autrement dit, moins de recettes, mais plus de dépenses. Françoise Coste, quand on vous lit, on a l'impression que le programme politique de Reagan relevait parfois un peu de la pensée magique, en tous les cas, du côté de l'économie. George Bush avait même parlé d'économie vaudou.
Oui, c'est la campagne de Reagan en 80, et là le lien est direct avec notre période, vous l'avez dit, on vit dans le monde de Ronald Reagan. La campagne de Reagan en 80, c'est la première campagne où arrive sur le devant de la scène la théorie de l'offre, qui est mise en place par certains économistes conservateurs à la fin des années 70. Et Reagan, pour le coup, là, il a quand même été reniflé ce qui se passe dans le monde intellectuel. Et via ses conseillers, il découvre la théorie de l'offre. Alors, il a jamais lu les grands textes hein, théoriques ou quoi. Mais ça lui plaît parce que ça peut s'expliquer en deux, trois phrases. Et ça correspond justement, coïncidence heureuse, à ce qu'il pense, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'il disait aussi dans l'entretien avec Cavada et Okrinth, qu'il y a beaucoup trop de bureaucratie, beaucoup trop de fiscalité, que ça devient des obstacles pour les entrepreneurs, et que si on baisse ses impôts et qu'on libère les énergies des entrepreneurs, la machine américaine, la machine économique européenne rugira à nouveau. Ça lui plaît. En plus, c'est facile à expliquer au peuple. Vous paierez moins d'impôts, et la croissance va revenir. Qui peut être contre ça? C'est une recette qui a l'air tellement magique et tellement simple, c'est super tentant. Donc ça va devenir la principale promesse économique de Reagan en 80, oui.
Et c'est avec ce programme politique libéral et sa personnalité séduisante qu'il est élu président des États-Unis le 4 novembre 1980.
Mais là, on va passer peut-être un peu du jazz au blues.
Ouais, je trouve que ce serait une bonne idée parce que... En plus, non, on va passer tout de suite l'antenne au journal, c'est une urgence. Tout de suite. Les infos.
Oui, c'est presque une urgence, puisqu'il serait intéressant maintenant que Washington nous confirme l'information que nous avons donnée à 2h15. À ce moment, Reagan avait 270 grands électeurs pour lui sur les 538 que comporte le collège des grands électeurs. Ça veut dire qu'il était pratiquement et sûrement élu président des États-Unis. Alors je voudrais, Denis Poncet, que vous puissiez nous confirmer cette information.
Écoutez, la meilleure façon de vous confirmer, c'est qu'il y a quelques instants, le président Carter a réuni dans son bureau ovale tous ses collaborateurs et que Jody Powell est sorti, le porte-parole du président est sorti en larmes du bureau ovale de la Maison-Blanche. Je vois encore la carte maintenant, tout est bleu, pratiquement pour Reagan dans l'Est et dans le Midwest du pays. Seul est rouge pour l'instant la Géorgie et le district de Columbia, c'est-à-dire la ville de Washington, qui traditionnellement vote toujours démocrate, mais ça ne veut rien dire.
Ce soir d'élection ouvre la période du passage de relais entre les deux administrations. Et le premier dossier sur la table du président élu va être celui des otages de Téhéran, que son prédécesseur, Carter, n'a pas réussi à faire libérer jusqu'ici. Les commentateurs soulèvent d'ailleurs ce point dès le soir de l'élection.
Maintenant, d'ailleurs, on pense que le gouverneur Reagan, maintenant le président Reagan, va arriver dans la grande salle des fêtes du Century Plaza, qui est maintenant bourrée de monde. Alors, je vous dirais, bon, les réactions. Ben, je serais presque tenté de vous dire que c'est beau comme la fin d'un western. Tout à l'heure, en écoutant Carter, les gens étaient presque ici à être émus, à pleurer. Heureusement, il a eu un très bon comportement. Il a parlé de la transition très difficile qui va avoir lieu maintenant, qui est, dit-on, dans l'entourage de Reagan. C'est effectivement une période extrêmement difficile, sur le plan économique, bien sûr, mais surtout pour en terminer avec cette affaire des otages. Il est évident que maintenant, c'est en alliance étroite, le président Carter, qui est encore en exercice jusqu'au mois de janvier, et le nouveau président qui, lui, ne prendra ses fonctions qu'en janvier, président Reagan, qui devront régler cette douloureuse situation qui a d'ailleurs pesé énormément dans ce scrutin.
Quelques mois plus tard, en janvier, c'est la passation de pouvoir. Et la manière dont elle se déroule surprend le président sortant, pour le moins. Car le matin même de la passation, Carter est parvenu à résoudre la crise des otages. Il pense évidemment que cette information va particulièrement intéresser le nouveau président, étant donné l'importance que cette prise d'otages a eue dans l'opinion publique. Or, il constate qu'il n'en est rien. Reagan ne semble pas avoir quoi que ce soit à dire sur le sujet de cette libération. Il ne semble même pas s'y intéresser. À la place, il entreprend Carter sur de vieux souvenirs de Hollywood. Françoise Coste, cette anecdote montre un président qui est quand même totalement déconnecté de la réalité de sa charge.
Oui, elle est assez glaçante en fait, parce que encore aujourd'hui, le fait que l'Iran a annoncé la libération des otages de l'ambassade américaine à Téhéran le matin même de la passation de pouvoir entre Carter et Reagan. Et depuis, il y a une théorie du complot qui dit que Reagan aurait demandé aux Iraniens d'attendre ce matin-là pour acter la libération afin d'humilier jusqu'au bout Carter. Ça, on l'entend souvent. Mais dans les faits, d'abord, moi, je n'ai jamais vu de preuve de ça. Et surtout, s'il y avait eu un complot, au moins, Reagan aurait été au courant, ça l'aurait intéressé. Or, effectivement, les faits montrent, et le témoignage de Carter montre, que ce matin-là de la libération, Reagan était quasiment indifférent à la question. Alors que le pauvre Carter avait fait nuit blanche pour justement négocier jusqu'au bout. Il est livide, on le voit dans les vidéos de la passation de pouvoir. Il a pas dormi depuis des jours, il est obsédé par ça. Reagan lui est guiré. Carter lui essaye de lui parler des otages, il dit « mais de quoi vous me parlez quoi ?» Voilà, c'est complètement en dehors de son radar ce matin-là. Toute sa vie, il a été chanceux. Voilà, et je pense qu'il a été chanceux à la radio, il a été chanceux à Hollywood, il a été chanceux en Californie. Et Reagan se dit, ben voilà, c'est ma chance qui continue. Bien sûr que j'allais être élu président, et bien sûr le destin fait que cette crise terrible allait être réglée ce matin-là et que je n'aurais pas à la gérer. Je pense que c'est comme ça qu'il le perçoit.
Donc, au fond, il y a cette idée qu'on peut très bien gouverner la première puissance du monde avec deux ou trois idées très générales. Vous avez intitulé l'un des chapitres de votre biographie « Le roi fainéant » quand vous expliquez comment Reagan, au fond, n'était pas très acharné à la tâche dans le bureau ovale. Ça aussi, c'est un petit peu glaçant.
Oui, parce que nous, on est, surtout en France, on est habitué, par exemple, à être gouverné par des énarques. Donc, pour nous, le président, le premier ministre, c'est des bosseurs. On attend de nos chefs une immense compétence et une immense expertise. Reagan dirait, ouais, c'est super, sauf que si on pousse cette logique au bout, on arrive à être dirigé par des bureaucrates et technocrates déconnectés du terrain. Donc, mieux vaut avoir, et c'est la méthode Reagan, donc des idées très claires, très arrêté, on pourrait dire, du bon staff autour de soi, être bon pour donner des ordres, après tout, quand on est un chef, c'est fait pour ça, donner une ligne de conduite et attendre de ses subordonnés de bons résultats. Voilà. C'est une autre conception du management, et Reagan dirait, n'empêche que grâce à ça, j'ai ramené la prospérité, j'ai gagné la guerre froide, donc dans les faits, ce type de management qui nous paraît ahurissant, pour les Reaganiens, a été plutôt fructueux.
Donc vous décrivez ces journées de travail qui étaient relativement réduites et pourtant il se plaignait encore d'avoir trop à faire. C'était quoi la journée de travail de Ronald Reagan en général ?
Alors, il ne se lève pas très tôt. Il reçoit le matin un petit briefing de la CIA. Il rencontre son chef de cabinet, ses principaux conseillers au bureau ovale après le petit déjeuner. Quelques réunions, quelques rendez-vous et ensuite, en fin de matinée, du repos. Peut-être un lunch de travail. Après le lunch de travail, encore du repos, c'est-à-dire la sieste. C'est un président qui fait la sieste. Peut-être après la sieste, quelques meetings, quelques rendez-vous. Enfin, je vous dis, un rendez-vous, c'est 10 minutes. Hein. On envoie les gens dans le bureau ovale très, 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 très vite. Et puis, les bonjours, donc quelques rencontres comme ça. Et puis après, on va faire du cheval, par exemple, en allant très souvent en Californie, donc avec Air Force One pour faire des grands week-ends en Californie, dans le ranch de Nancy et Ronald Reagan, pour faire beaucoup de cheval. Voilà, c'est pas hyper stressant. Le soir, on lui donne des mémos, des briefings pour le lendemain. Au fur et à mesure de la présidence, c'est Nancy en particulier qui va dire « Vous lui donnez trop à lire, le soir, après manger, il doit encore lire des papiers. Non, nous, on voudrait regarder la télé. » Vous regardez des films dans le cinéma de la Maison Blanche. Donc, elle va exiger qu'il y ait de moins en moins de papiers le soir à lire.
Rapidement après sa prise de fonction, survient un événement qui n'est pas sans rappeler l'histoire récente. Le 30 mars 1981, alors que Reagan sort d'un hôtel où il vient de prononcer un discours, un tireur l'atteint d'une balle près du cœur. Le temps de le transférer à l'hôpital, il s'est déjà vidé de la moitié de son sang. Le motif de cette attaque est loin d'être politique, puisque le tireur John Hinckley voulait surtout impressionner Jodie Foster, dont il était, paraît-il, amoureux.
Il était donc 21h30, heure de Paris, 14h30 à Washington. Ronald Reagan sort de l'hôtel Hilton où il vient de s'adresser à des syndicalistes. Il salue la foule de la main. En 2 secondes, 6 coups de feu sont tirés. Un événement que les Américains ont pu vivre en direct à la télévision. Écoutez, les micros étaient branchés. C'est la panique. 6 coups de feu au total, donc, viennent d'être tirés par un garçon de 25 ans qui sera arrêté aussitôt. À ce moment-là, 3 hommes sont à terre. Yves Loiseau nous fait revivre ces quelques minutes qui ont bouleversé l'Amérique.
Il avait l'air bien propre, bien gentil, celui qui voulait tuer le président Reagan. Cheveux blonds, courts, veste beige, pantalon noir. Et sur le trottoir devant l'hôtel Hilton, on avait pu le prendre pour un journaliste de l'entourage présidentiel. C'est sans doute ce qui lui a permis de tirer si vite, sans être inquiété, et de faire mouche 4 fois, sans que les gardes du corps de Ronald Reagan aient pu s'interposer. Le président, lui, il a disparu rapidement du lieu de l'attentat, littéralement poussé dans sa voiture blindée. Seul un rictus de douleur marquait son visage. Une balle l'avait atteint quelques secondes plus tôt au poumon gauche.
C'est debout, soutenu par 2 agents de la sécurité, que Ronald Reagan entre quelques minutes plus tard à l'hôpital George Washington. Il se tient le côté de la main droite et une tache de sang s'étale sur sa chemise. Il est parfaitement conscient. « J'ai oublié de me baisser », dit-il à sa femme. Et à un de ses amis, il ajoute « Ne t'en fais pas, je vais m'en sortir ». La salle d'opération est là. Reagan regarde alors les médecins. « S'il vous plaît, plaisante-t-il, dites-moi que vous êtes républicain ».
Qu'est-ce que vous entendez dans cette archive ?
Bon, ça, c'est devenu le mythe autour de Reagan, le fait que dans la salle d'opération, il arrive encore à faire des blagues, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de Reagan, super sympa, toujours, même à l'article de la mort. Mais après, on se rend compte que il a géré la tentative d'assassinat, un peu comme Trump cet été, en étant d'emblée, et ça c'est la force de l'animal politique, obsédé par l'image qu'il allait donner. C'est-à-dire que quand il arrive, la limousine, elle arrive à l'hôpital, il est déjà très affaibli. Il y a un seul, Jerry, je crois qu'il s'appelle, son garde du corps principal, qui est avec lui dans la voiture et qui propose de l'amener dans les urgences en le tenant. Et il lui dit « Appuyez-vous sur moi ». Et il lui dit « Non, Jerry, je vais marcher tout seul ». Donc, il sort de la voiture, il fait quelques pas pour rentrer dans les urgences. Et une fois que la porte est fermée, là, il s'écroule. Mais ça, c'est pour moi une métaphore de la maîtrise totale de l'image, la maîtrise totale de ce qu'il représente en tant que Ronald Reagan, mais aussi en tant que métonymie pour la puissance américaine une fois qu'il est élu, c'est-à-dire ne jamais, jamais montrer de faiblesse.
Et en même temps, quand il rencontre des dirigeants étrangers, ces dirigeants sont assez étonnés du fait qu'il ait les yeux rivés sur ses fiches, que bien souvent, il ait du mal à avoir une conversation sur les sujets sérieux. Comment cela s'est-il passé avec Gorbatchev, dont on a déjà esquissé le fait que Reagan l'a, semble-t-il, beaucoup admiré, ce qui n'était peut-être pas réciproque?
C'est passionnant, cette relation. C'est sûr que Reagan, il est assez agaçant pour tous les autres présidents de l'époque, parce que effectivement, comme il ne maîtrise pas les dossiers, on l'a dit, c'est très difficile dans les G7, par exemple, d'avoir une conversation avec lui. Donc, soit il a des fiches, ou ses conseillers lui ont donné quelques infos importantes, donc soit il lit des fiches, soit quand il se rend compte que les fiches ne permettent plus de suivre la conversation entre Mitterrand, Kohl et Thatcher, à ce moment-là, il bascule dans ce qu'il sait faire. Il raconte des blagues ou des anecdotes de ses années d'Hollywood, en pensant que tout le monde a envie d'entendre des anecdotes d'Hollywood sur les années 40 en plus, donc ça fait un peu has-been. Bon, donc, il agace. Mais on le respecte, on le tolère parce que c'est le président des États-Unis. Quand il rencontre Gorbatchev pour la première fois, c'est en 85, ses conseillers sont tétanisé à l'idée qu'il y ait un tête-à-tête entre les deux hommes, qui doit durer à Genève, c'est le grand sommet de Genève, 15 minutes. Donc, on prépare Reagan vraiment mot à mot, mot pour mot, les fiches hyper détaillées pour ce qu'il doit dire. Et en fait, c'est comme une sorte de pièce de théâtre. Il y a ces conseillers lui disent, vous n'allez pas improviser, vous lisez ce qu'il y a sur les fiches. Et en fait, cette première rencontre qui devait durer 15 minutes, ce premier tête-à-tête, il va durer plus d'une heure. Donc, les conseillers se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et en fait, Reagan sort de là, il dit, ça y est, je l'ai charmé maintenant à vous, les diplomates, vous avez qu'à rédiger. C'est vous qui faites le job, hein, pour les futurs traités, tout ça. Et c'est vrai qu'il a, alors, il a charmé Gorbatchev, c'est-à-dire qu'il lui a raconté des blagues, des blagues anticommunistes, qui n'ont pas super fait rire Gorbatchev, mais disons que dès 85, Gorbatchev se rend compte qu'ils ne sont pas égaux dans leur partenariat, parce qu'il sait lui-même que l'URSS est en train de s'effondrer, qu'il va falloir de l'aide des Américains, qu'il va falloir dénucléariser les deux arsenaux des deux pays. Et donc, Gorbatchev se prend de patience.
Ladies and gentlemen, I'd planned to speak to you tonight to report on the State of the Union. But the events of earlier today have led me to change those plans. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. 19 years ago, almost to the day, we lost three astronauts in a terrible accident on the ground. But we've never lost an astronaut in flight. We've never had a tragedy like this.
Une dernière archive pour entendre le président américain Reagan qui annonce l'explosion de la navette Challenger. Et ce qu'on entend surtout, c'est l'émotion très palpable dans le ton de sa voix. Vous dites que c'est l'un des discours les plus réussis finalement de Ronald Reagan, Françoise Coste.
Oui, parce que c'est un discours qui n'est pas politique. Donc là, on n'est pas obligé de le juger à l'aune de l'idéologie. C'est pas l'ultralibéral ou c'est pas l'anticommuniste qui parle. C'est un chef d'État qui sait que la population a été traumatisée, parce que comme il le dit, c'est la première fois qu'il y avait trois astronautes qui étaient morts dans un incendie sur le pas de tir dans les années 70. Mais c'est la première fois qu'on l'Amérique perd des astronautes dans le ciel. Et en plus, c'était une mission très spéciale qui avait été très couverte par la presse, parce que dans les astronautes de la navette Challenger, il y avait une institutrice. Il y avait eu un grand concours lancé par la NASA pour essayer de démocratiser l'espace en disant qu'on n'avait pas besoin d'être un super astronaute militaire pour aller dans l'espace. Donc il y avait des instituteurs, des institutrices qui avaient pu candidater. Elle avait été tirée au sort et donc c'était toutes les écoles d'Amérique suivaient la préparation de cette institutrice. Toutes les écoles d'Amérique regardaient en direct ce matin-là le décollage de la fusée avec une institutrice dedans. Et donc, des millions de gens ont regardé le décollage, ce qui se faisait pas d'habitude, et ont vu la navette exploser en direct. Donc, on a du mal à imaginer aujourd'hui l'émoi et de collectif de cette tragédie. Et Reagan, qui, malgré tous ses défauts, avait vraiment le doigt sur l'opinion publique, l'a senti très vite. On peut aussi créditer Peggy Noonan, qui était une des rares femmes travaillant à l'époque pour la Maison Blanche, qui a en fait rédigé le discours et qui se finit sur une note très 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 touchante où il dit ils sont morts, mais sans aller dans l'espace puisque ça a explosé au décollage, mais en fait ils y sont dans l'espace puisqu'aujourd'hui maintenant on sait que leurs doigts touchent le visage de Dieu. Voilà, c'est une belle métaphore dans un pays très croyant qui a beaucoup touché l'opinion.
Chercher du côté du cœur plutôt que du côté des faits, c'est une direction que la politique mondiale tente à adopter à l'heure où les émotions se transmettent à la vitesse de l'Internet. Et Reagan aura été l'un des jalons sur cette route-là. Mais s'il a eu une influence sur la marche du monde, il a aussi été le fruit d'un état d'esprit, d'une atmosphère générale qui l'a porté au pouvoir. Dans l'ombre de Ronald Reagan, une mini-série en 2 épisodes de Mathieu Garrigou-Lagrange, Julie Beressy et Lily Corner. Prise de son François Saint-Jour, mixage Xavier Lévesque, documentation Ina Arnaud-Plançon. Merci aux moyens techniques de France Bleu Occitanie. Et merci à Françoise Coste, autrice d'une biographie de Ronald Reagan parue aux éditions Perrin. Retrouvez tous les épisodes de Salle des Archives sur l'application Radio France. Thank you.